Être pour ou contre, d'un côté ou de l'autre, prendre fait et cause pour qui ? Il faut choisir, faut-il choisir ? Peut-on changer, épouser toutes les causes, toutes les identités, toutes les fictions, avoir plusieurs vies ?
Pascal Paradou.
Peut-on avoir plusieurs vies ? Peut-on aimer plusieurs femmes ? Envisager le monde dans sa pluralité ? Ce qui est parfois délicat dans la réalité, la fiction le permet, si j'en crois Nathalie Azoulay, dont le nouveau roman porte un titre sans ambiguïté, « Toutes les vies de Théo ». Bonjour Nathalie Azoulay.
Bonjour.
C'est une évidence pour vous ? On a plusieurs vies ?
Oh oui, je crois qu'on peut avoir plusieurs vies. Alors, sont-elles différentes les unes des autres ? C'est encore une autre question. Peut-être que toutes ces vies n'en forment qu'une.
Le roman, la fiction, permet d'amplifier cela. Est-ce que vous avez, vous, par exemple, la vie de vos personnages ?
Oh non, pas du tout. Je partage avec eux quelques traits de caractère, voire quelques manies, habitudes, parce que c'est à partir de moi que je construis mes personnages, mais après ils prennent un peu leur autonomie et se distinguent assez nettement de ce que je suis et de ce que je vis.
Donc il n'y a pas trace d'autofiction, c'est vraiment du roman.
C'est du roman parce que c'est une multiplicité de personnages et de points de vue et d'existence et de motivation. Alors on est tous animés par beaucoup d'entre elles et par plusieurs d'entre elles, on est rarement univoque. Mais il n'empêche que cette composition relève de l'invention romanesque.
Est-ce que Théo, donc le personnage principal de votre roman, en même temps il y en a beaucoup de personnages principaux, est-ce que c'est vous, pour faire un clin d'œil à Flaubert, que vous citez dans votre roman et dont on connaît la fameuse phrase « Madame Bovary, c'est moi ». La réponse est non, hein. Oui. Ouais.
Non, Théo, ce n'est pas moi, mais c'est un peu moi, de même que Léa est un peu moi, Rose aussi. Les parents de ces deux femmes, peut-être un peu leur fille aussi. Donc, encore une fois, mes personnages n'existent pas sans moi, mais une fois qu'ils existent, ils me dépassent.
Alors Théo, en quelques mots, historien d'art d'origine bretonne qui va rencontrer Léa, qui est une jeune femme juive dont le téléphone parfois sonne de façon intempestive. Il va l'épouser, faire un enfant et la cinquantaine arrivant, la quitter pour Maya, une jeune artiste libanaise. Alors dit comme ça, ça peut ressembler à du vaudeville, mais il y a au centre de cette histoire et de ce roman la situation au Proche-Orient, le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 23, 1200 morts, puis la répression meurtrière d'Israël qui pilonne Gaza depuis un an et demi, 50 000 morts ou plus. Donc c'est du vaudeville ou c'est une tragédie, votre roman ?
Les deux. C'est-à-dire que sur ces données tragiques de l'histoire qui est en train de se passer, j'ai composé une sorte de comédie dramatique, mais comédie quand même, avec des choix de rythme, d'allure, de vivacité, d'ironie, de légèreté aussi, qui scande cette histoire, qui scande ces histoires d'amour. C'est-à-dire qu'on a une histoire d'amour première qui est plus longue que la deuxième, mais qui quand même bascule assez vite, comme la comédie permet de le faire, et comme le roman, je dirais, non comique, ne permet pas de le faire. J'aurais dû prendre plus de temps pour opérer ce bascule. Or là, je me suis donné les armes de la comédie pour aller vite, pour changer de registre, pour prendre un peu de distance par rapport au drame et à la tragédie, et pour aussi aller disséquer les mille et une pensées qui animent ces personnages, qui sont souvent inavouables, indicibles, contradictoires. Et je pensais que le registre de la comédie me permettrait de le faire avec plus d'efficacité que si j'étais restée dans le registre tragique.
Et c'est ça le cœur du roman. Ce sont ces mille et une pensées autour de ce conflit, autour des identités et autour de ces non-dits qui arrivent par la fiction et qui n'arrivent pas dans la réalité souvent.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on écoute peu ces voix-là en nous. On les tait ou on fait semblant de ne pas les entendre. Pour ce qui est de mon personnage principal, parce que c'est quand même de son point de vue que tout est raconté, Théo. Quand il rencontre Léa, il tombe éperdument amoureux d'elle, mais il a aussi des pensées qui le traversent dès le départ, qui sont des pensées positives, mais avec leur revers, avec leur envers, avec leurs zones d'ombre. Et ces zones d'ombre sont, je dirais, à peu près inopérantes pendant tout le temps de l'amour. Et dès que l'amour commence à faiblir ou à s'user, alors elles reviennent à la surface, elles l'animent de plus en plus, ils se posent des questions, ils se demandent s'il est vraiment à la place où il aurait dû être avec la femme qu'il a éperdument aimée. Ils se demandent pourquoi il l'a aimée comme ça et ce que cachait aussi cet amour.
Mais est-ce que finalement... les vies que nous avons tous au pluriel, est-ce que ce ne sont pas les pensées que nous nourrissons ou taisons ?
Ben, ça fait partie de nos vies. Je pense qu'on a des vies à plusieurs strates, des vies en surface, des vies profondes, des vies intermédiaires. Je pense que le temps joue beaucoup sur la façon dont ces strates jouent les unes avec les autres. Mais quand Théo, encore une fois, rencontre Léa, il tombe amoureux. Et peut-être que les nombreuses vies de Théo, c'est aussi une manière pour lui de réenvisager l'amour. C'est-à-dire de voir que l'amour n'est jamais totalement pur ou totalement romantique.
Quand avez-vous décidé d'écrire ce livre, ce roman, Nathalie Azoulay ? Parce que vous êtes vraiment au fil de l'actualité.
Alors, j'ai décidé d'écrire, en tout cas volontairement et consciemment, 6 mois après le 7 octobre. C'est-à-dire que, sans doute, j'avais engrangé un matériau qui me permettrait d'écrire à partir du mois de mai, disons, 2024. Mais je n'en avais pas eu conscience. Je suivais, évidemment, l'actualité d'une manière très assidue, très concernée, très inquiète. Mais je n'avais pas conscience que j'engrangeais un matériau qui allait me servir. Et donc, j'ai ouvert mon premier fichier en mai 2024.
Mais il vous fallait écrire sur ce sujet ?
Eh bien, quelque chose s'est déclenché en moi qui m'a poussée à le faire. Oui, je crois que j'avais une forme de nécessité vitale à le faire. Mais ce qui a été très, très, très moteur, outre l'événement lui-même, c'est le choix de Théo, c'est-à-dire quand j'ai compris que je devais raconter l'histoire à travers son point de vue, et encore une fois, les données de la comédie, c'est-à-dire la distance que je pourrais avoir avec cette histoire.
Nathalie Azoulay, les vies de Théo et comment dire, et vivre ces événements du 7 octobre et de la guerre si violente et si quotidienne. On se retrouve dans quelques minutes, mais je vous propose une découverte. C'est Erika Hagen, musicienne québécoise qui sort son premier album « Pouvoir magique », dans lequel elle dévoile ce titre « Erratique affaire ».
Souvent, quand je tombe, j'ai peur que tu tombes à cause de moi. Et souvent, je suis perdue dans la rue sans lampadaire. J'oublie de payer les parcs-mètres. Je cherche à connaître par cœur les raisons de ma mort. Une erratique affaire, un animal laminé dans le Danube.
Sur RFI aujourd'hui et dans De Vive Voix, Erika Hagen et Nathalie Azoulay, aujourd'hui notre invitée pour son nouveau roman « Toutes les vies de Théo », où l'on entend le fracas de la guerre au Moyen-Orient, mais aussi la ritournelle des « Demoiselles de Rochefort » écrite par Michel Legrand pour le film de Jacques Demy, où on est aussi témoin de la mort de Françoise Hardy en juin dernier, c'est dire si vous avez écrit avec l'actualité. Pourquoi ces références musicales ?
Ben parce que quand j'ai conçu mon personnage de Théo, je me suis dit que c'était un personnage tout à fait sérieux, puisque c'est un intellectuel qui travaille sur des matières assez sombres et en effet sérieuses. Mais j'avais envie qu'il ait ses zones de légèreté, sa petite insouciance et même sa féminité, parce que cette mélodie-là, normalement, c'est les petites filles qui la chantent. Et là,
nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe.
Exactement, voilà. Donc on est des petites filles ou des jeunes filles, disons.
Et des
mais
vieux
rarement
garçons.
Des intellectuels de 50 ans. Et là, quand il a une insomnie, Théo, eh bien, il pense à cette chanson, il réécrit les paroles, mais aussi parce qu'il a dans sa vie cette femme qui a une sœur dont elle est très proche. Et lui en a fait des jumelles, bien qu'elle ne le soit pas. Et donc, en épousant sa femme, il épouse aussi un couple de sœurs. C'est aussi une des dimensions du livre.
Mais à propos des Demoiselles de Rochefort, c'est quand même aussi une histoire où chaque personnage a plusieurs vies. Avec des effets de hasard, de rencontres
Absolument.
Et de disparitions.
Oui, c'est vrai que c'est.
Et c'est moins léger qu'il n'y paraît.
Absolument,
c'est
vrai.
Parce que je suis hyper fan, je dois vous le dire.
Ah oui, bah alors voilà, donc c'est pas vraiment une chanson pour les petites filles.
Mais
c'est vrai que c'est une histoire de déambulation dans la ville de Rochefort et d'une croisée de destin et de coïncidences, c'est vrai.
Question de volonté ou de hasard, quand vous écrivez, est-ce que vous prévoyez ce qui se passe pour les personnages. Est-ce que vous prévoyez le hasard? Par exemple, Théo et Léa se rencontrent sur un stand de tir. Pour quelle raison? On lit immédiatement et on voit bien ce qui va se profiler dans le roman. Elle dit « on ne sait jamais ». Il faut apprendre à tirer « on ne sait jamais ». Donc ça préfigure la catastrophe.
Absolument, c'est vrai que cette rencontre, pour moi, elle avait quelque chose de cinématographique et je trouvais que de décrire une scène de rencontre dans un endroit aussi violent et aussi pessimiste, je dirais, ça avait quelque chose d'un peu cocasse. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup d'intensité et j'avais envie de mettre cette intensité au cœur de leur rencontre. Et puis, en effet, c'est une sorte de signe avant-coureur de ce qui va se passer et du fait qu'on va avoir besoin de se battre et qu'il y aura des armes dans cette histoire.
Pourtant, dans les 80 premières pages à peu près, il n'y a pas de violence, c'est vraiment cette histoire d'amour, cette histoire de rencontre, avec une question qui se pose quand même immédiatement, qui est la question de la judaïté. Qu'est-ce qu'être juif, puisque Théo ne l'est pas, mais en épousant une femme juive, il dit vouloir être plus juif que juif.
Oui, cette histoire était pour moi cruciale. C'est-à-dire que Théo est un Européen moderne qui, en plus, a la particularité d'avoir une mère à moitié allemande qui l'a éduqué dans l'idée de la réparation de la Shoah et dans l'idée de cette pénitence dont on n'avait jamais fini. Et donc, il a une forme de conditionnement qui est que s'il épouse une juive, en plus polonaise d'origine, il y a de bonnes chances pour qu'il répare en partie cette faute et qu'il lave un peu le destin de sa mère. Et donc, c'est ce qu'il fait. Alors, Léa le charme, mais Léa le charme aussi parce qu'elle a cette histoire familiale derrière elle. Et donc, il y a cet emboîtement parfait parce que du côté de Léa, il y a aussi l'idée qu'il faut épouser un non-juif. C'est-à-dire que pour elle, c'est beaucoup plus protecteur, c'est un gage d'avenir pour elle, pour les enfants qu'elle aura, que d'être unie à un homme qui ne sera pas concerné par des crimes futurs. Et donc, il y a un emboîtement parfait à ce moment-là entre deux. Et c'est un amour qui se fonde sur le charme réciproque, mais aussi sur cette motivation qu'ils ont par rapport à l'histoire.
L'un veut devenir juif et l'autre veut un peu effacer sa judaïté au début.
Oui, c'est-à-dire elle veut un peu l'oublier en épousant cet homme qui est ancré en France, qui est breton. Et lui veut aller vers cette modernité qui l'encourage à l'altérité absolue.
Mais du coup, c'est quoi être juif? C'est une question assez mystérieuse pour le lecteur qui n'est pas juif, accessoirement. Cela renvoie à quoi? À une religion, à une culture, à une histoire, à un passé commun?
Mais je crois que dans mon roman, il y a déjà plusieurs façons d'être juif qui sont indiquées. Pour ce qui est celle de Léa, c'est une judaïté purement culturelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de ferveur religieuse, elle n'a pas de pratique religieuse. Encore une fois, ses parents sont d'origine polonaise, donc ils ont subi de plein fouet la Shoah et ils sont ils ont voulu s'intégrer en France, avoir des enfants français, et donc prôner une forme d'assimilation. Donc il y a une forme d'oubli de cette appartenance religieuse qui est très forte, qui est très affirmée. Ils ont quelques bribes quand ils font quelques fêtes pendant l'année, mais c'est vraiment très superficiel. Et puis, au début du livre, ils ont une histoire aussi assez détachée par rapport à Israël et au sionisme. Et donc, ce sont des Juifs un peu détachés d'une manière générale. Mais ils ont été frappés dans leur famille, mais il y a une grand-mère rescapée, donc forcément ça existe, et forcément c'est quand même fort dans leur identité. Mais c'est culturel.
Et tout bascule le 7 octobre, puisque Théo, ce jour-là, fête ses 50 ans. Une soirée est prévue, c'est Léa qui l'organise, mais finalement, elle annule tout au dernier moment, vu ce qui s'est passé. C'est écrit à peu près comme cela.
C'est une attaque massive du jamais vu en Israël.
Des commandos palestiniens ont pu entrer ce matin sur le territoire de l'État hébreu dans les localités du sud, proches de Gaza.
Bilan, près de 1200 personnes tuées, 251 personnes prises en otage.
Ma fille Noya est partie avec sa grand-mère à Kibbutz Nir Oz. C'était l'Holocauste, c'était un pogrom. Ils ont tué, brûlé, kidnappé des gens inimaginable.
J'ai tout de suite pensé qu'il fallait éteindre la lumière et rester silencieuse. Comme ça. Vous voyez, il fait complètement noir. Nous sommes restés ainsi pendant 12 heures, sans parler, et en se demandant comment verrouiller la porte, comment.
Le 7 octobre 23 est donc au cœur de votre roman, Nathalie Azoulay, Toutes les vies de Théo, mais de façon finalement assez elliptique. La date n'est pas mentionnée et aucun mot, aucun qualificatif n'est écrit vraiment pour raconter ce qui se passe.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ce n'est pas un roman sur le 7 octobre. C'est un roman sur les effets du 7 octobre au sein d'un couple français. Et donc, c'est toute la différence. C'est-à-dire que mon terrain de jeu, entre guillemets, c'est vraiment cet appartement où vivent Théo et Léa avec leur fille et les répercussions, en fait, qui vont se faire de plus en plus. Parce que ce 7 octobre, c'est un samedi matin, mais en fait, ce sont des jours, des semaines, des mois entiers qui vont modifier la donne.
Mais il faut se méfier des mots sur un sujet comme celui-là, parce que dans le roman, vous écrivez que le massacre prend de l'ampleur au fil des jours et qu'il tétanise les mots.
Mais oui, parce qu'on d'abord, on a eu du mal à qualifier ce massacre, parce qu'il était vraiment très inédit. On vient d'entendre là qu'il y avait le mot pogrom, le mot massacre.
Le mot Shoah.
Le mot Shoah, on a parlé de terrorisme, de barbarie, etc. Mais c'est vrai que les mots ont tourné sans qu'on trouve le bon mot, parce que c'était du jamais vu. Et entre mes personnages, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à porter de mots dessus, et en fait, la première réaction qui se fait, c'est la sidération. C'est celle de Léa qui sait qu'il est arrivé une chose massive, qui ne peut plus organiser cette fête comme elle en avait l'intention pour fêter l'anniversaire de son mari. Et sciemment, j'ai choisi justement que Théo soit né le 7 octobre parce que je voulais rendre l'événement très intime entre eux. Et en fait, avec cette annulation, cette crise existentielle touche à son comble. Et ce n'est pas une crise politique, j'insiste, ce n'est pas une crise politique entre eux parce qu'ils sont à peu près d'accord au moment où ça se passe, sauf que leurs réactions ne sont pas les mêmes, mais leurs réactions charnelles, intimes, affectives, et qu'en plus, ça suscite un séisme existentiel entre eux, où ils vont chacun changer de place.
Oui, et puis le mot juif lui-même change de sens au fil des événements et du temps. Il s'enquiste et tout remonte d'ailleurs chez Léa, la Shoah, les pogroms, exactement comme disait cette femme dans le témoignage de tout à l'heure. Et puis va s'installer aussi la peur, le sentiment de persécution, une forme de paranoïa, est-ce qu'on peut dire ça?
Une forme
de paranoïa pour Léa.
Léa s'enferme dans ce drame, dans cette incompréhension, dans cette solitude, parce qu'elle ne se sent pas complètement comprise par son partenaire. Donc elle se replie, elle ne parle qu'avec des gens qui ressentent la même chose qu'elle, c'est-à-dire sa famille, ses cousins. Et elle entre dans une forme d'obsession d'elle-même. Et donc, je pense à ce moment-là que pour Théo, il y a quelque chose d'invivable qui se forme.
Et être juif pour elle, ça devient un « nous », écrivez-vous. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle se sent reliée à ce pays qui est Israël, alors qu'elle n'en avait pas forcément pris conscience auparavant et que cette judaïté culturelle n'était pas forcément liée à un territoire.
Absolument, c'est une révélation pour elle-même. Et le roman commence sur un « nous » qui est Théo et Léa et progresse vers un « nous » où Théo n'a plus de place.
Et peut se poser quand même une question, vous la poser entre les lignes, pas frontalement, mais est-ce qu'on peut être contre la politique menée par le gouvernement Netanyahou sans être antisémite ?
Ça dépend comment c'est dit, ça dépend par qui c'est dit, et c'est une question complexe. Mais on peut critiquer, bien sûr, et les Israéliens sont les premiers à critiquer cette politique, mais tout dépend du contexte et des mots qu'on emploie et de l'obsession qu'on a aussi pour ce conflit, et pas pour d'autres.
Et cela est dit et raconté très précisément dans le roman, parce que les personnages, aussi bien Léa que Théo, remettent en cause la politique, non pas de Netanyahou, c'est pas dit comme tel, mais sont quand même frappés par les massacres qui ont eu lieu dans la foulée de ce premier massacre, les massacres de Gaza.
Oui, mais au moment du 7 octobre, Netanyahou n'a encore rien fait.
Oui.
Et dès le 8 octobre, il y a par le monde des cris d'applaudissements qui se forment et qui s'entendent et qui célèbrent ce massacre. Donc en fait, c'est là que Léa sent une faille survenir et s'agrandir. En fait, ça n'a même pas grand-chose à voir avec la riposte. C'est bien avant que ça se passe et que la solitude s'éprouve. Mais c'est vrai qu'après, évidemment qu'il y a une crise politique qui va être majeure, qui va aussi faire changer d'avis Théo à certains endroits, et que là, l'incompréhension va être majeure. Mais Léa elle-même peut admettre que ce gouvernement mène une politique qui ne lui convient pas. D'ailleurs, elle l'admet.
Nathalie Azoulay, j'aimerais que vous nous lisiez un court extrait de votre roman. C'est à peu près la moitié du livre. C'est un dialogue entre Léa et Théo.
Un soir, Léa rentra dans tous ses états. Elle s'était disputée avec des collaborateurs qui lui reprochaient le nombre de morts à Gaza et maintenant au Liban. À trois contre elle, ça y allait. Rien ne les arrêtait. Ils étaient déchaînés. Théo lui conseilla de prendre un bain. « Tu aurais dû les entendre, » dit-elle à Théo. « Tout était ma faute. » Quand la quantité change, la qualité aussi. Tu ne peux pas nier que ces milliers de morts changent la perspective. « Je sais, Théo, je sais, mais c'est une guerre. Et pourquoi est-ce qu'on me tombe dessus? Et pourquoi est-ce que les autres guerres du monde ne provoquent pas la même indignation? Pourquoi c'est sur ce pays-là qu'on s'acharne, toujours et encore lui, alors qu'il passe son temps à se défendre? Si tu étais russe ou syrienne, il te tomberait dessus tout pareil. Bien sûr que non, il ferait la différence et tu le sais très bien. » Il le savait, sa mère l'ayant su avant lui, mais il ne pouvait pas rester là à l'écouter sans lui résister un tant soit peu. « Il faut supporter le nombre de morts, » continua Léa. « On n'a pas le choix. » « Tu aurais au moins pu t'en indigner. » « Je le fais, mais ça ne suffit jamais. Il faut condamner, encore et encore, recommencer, admettre que le persécuté est devenu le persécuteur. » « Tu pourrais aussi te désolidariser. »« Non, ça je ne peux pas, je ne pourrai jamais. Pourquoi ?» Ils se regardèrent et surtout les deux que c'était exactement là qu'ils achoppaient. Que Léa soit reliée à ce pays par un endroit auquel il n'accédait pas, un fil qu'il n'avait pas, avait autrefois insufflé du mystère dans son amour. Mais à présent, ce lien lui causait une sorte de crampe, un étranglement. Léa sortit de son bain.
Nathalie Azoulay, toutes les vies de Théo. Alors, on a bien compris que c'était un roman, qu'il n'y avait rien de l'ordre de l'autofiction ou du documentaire. Mais néanmoins, ce que vous racontez, ce que vous décrivez comme effet dans le couple, on l'a tous vécu dans la société et dans nos relations personnelles ou professionnelles, quelles que soient les origines et les cultures auxquelles on appartienne. Mais plus précisément, quand on est confronté à quelqu'un d'origine arabe ou d'origine juive.
Absolument, c'est ce matériau-là que j'ai engrangé pendant des mois, c'est-à-dire toutes ces conversations que j'ai entendues, les récits qu'on m'en a faits, les observations que moi-même j'ai pu faire, les lectures de la presse, les infos, enfin tout. Évidemment que tout ça a nourri mon roman et qu'il n'est pas du tout détaché du réel, au contraire, il en est nourri. Et c'est vrai que dans des endroits où personne n'était concerné, on parlait de ça et on se disputait à cause de ça.
Mais alors, pour échapper à cela, au conflit, à la dispute, la romancière que vous êtes imagine un pied de nez dans le livre, parce que la fille du couple va se convertir au catholicisme, et de façon assez ostentatoire, puisqu'elle arbore une chaîne et un Christ autour du cou. Et Théo va rencontrer Maya, qui est donc une jeune artiste, beaucoup plus jeune que lui, puisqu'il a un peu plus de 50 ans, libanaise. Chrétienne, mais arabe.
Oui, c'est-à-dire que la liberté de la comédie m'a permis d'imaginer ces deux pieds de nez, comme vous les appelez, c'est-à-dire cette conversion de Noémie...
Ce changement de pied, on peut dire aussi.
Ce changement de pied, c'est-à-dire que Noémie est quand même de père catholique et de mère juive. Elle était jusque-là très fusionnelle avec sa mère, mais à partir du moment où elle grandit, elle est adolescente, sa grand-mère meurt, elle se réveille à une nouvelle identité et elle a envie d'être catholique et elle devient catholique. Et donc là, elle fait aussi trembler l'équilibre familial. Et puis, suite à ça, il y a cette crise du 7, cet anniversaire volé que Théo ne pourra pas fêter, et cette lente désintégration du lien avec sa femme qui va le pousser vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour. En plus, il a 50 ans et l'autre en a 28 et elle est resplendissante, flamboyante, tout l'avenir devant elle. Et surtout, elle lui propose un nouveau côté du monde, un nouveau regard, un nouveau point de vue et il en a très envie.
Et il revit grâce à l'Orient, ce sont vos mots. Il va jusqu'à s'inventer une enfance au Caire et à changer de guerre. Ce qui n'est quand même pas neutre.
Oui, parce qu'il va aussi sur le terrain avec Maya, qui l'emmène au Liban. Il va aller dans la plaine de la Beka. Il va être conduit par des amis à elle dans ces zones où il y a des combats, où on entend des tirs. Et il va être grisé par cette violence en temps réel, par ce conflit dont il a toujours entendu parler mais qu'il n'avait jamais vu de ses propres yeux. Et il va se prendre pour un protagoniste du conflit, en fait.
Et c'est le récit d'une passion.
D'une
torride.
Passion amoureuse, sexuelle, torride, qui les unit, de laquelle il va aussi naître un enfant, avec un nouveau défi pour Théo, puisqu'il va avoir une deuxième fille. Et, mais une passion qui est à la fois... pleine de, je dirais, de naturel, de vitalité, mais qui va aussi cacher, je dirais, une violence identitaire, des mots qui n'avaient pas encore été prononcés et qui vont bousculer et surprendre Théo lui-même.
Et faire en sorte que les histoires d'amour finissent souvent, toujours mal. Comment faut-il comprendre une des phrases de ce livre, « L'altérité est un pari difficile », Nathalie Azoulay?
Bon, très simplement, je crois. C'est-à-dire que dans notre modernité, on est poussé vers l'altérité, c'est-à-dire vers l'autre, celui qui n'a pas notre histoire, qui n'a pas notre culture, qui n'a pas notre langue, et auprès duquel on trouve beaucoup de ressources, de richesses, de complémentarité. Mais en cas de crise, et en cas de crise politique, qui devient forcément, ou souvent en tout cas, existentielle au sein d'un couple, au sein d'une famille, eh bien c'est difficile. C'est-à-dire que chacun à la fois a envie de comprendre l'autre, mais a une limite, ne peut pas, revient à sa propre histoire, à ses propres fondamentaux. Et il y a parfois et des clashs, des séparations, des distances, et beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Donc c'est un inconfort qui existe au quotidien, mais qui, quand il est amplifié par une crise majeure, peut devenir invivable.
Merci Nathalie Azoulay pour ce formidable roman. Toutes les vies de Théo est édité chez POL, comme beaucoup de vos précédents romans, comme Python, pour lequel nous vous avions reçu il y a quelques mois. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et dois-je vous le rappeler, vous pouvez nous réécouter sur le site rfi.fr, sur l'application Pure Radio, où vous pouvez vous abonner, et sur la page Facebook de l'émission De Vive Voix. On se retrouve demain.